VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 26 octobre 2022. Les pourparlers entre rebelles tigréens et gouvernement éthiopien se poursuivent en Afrique du Sud. Au Burkina Faso, le Premier ministre qualifie son cabinet de gouvernement de combat pour sécuriser le territoire. Au Tchad, Mustapha Masri, vice-président des transformateurs, a quitté ce parti d'opposition après les manifestations du 20 octobre.
Mais la question qui se pose est de savoir quand est-ce qu'a commencé cette dérive, quand est-ce qu'a commencé cette déviation, pour que ce soit aujourd'hui qu'il puisse déclarer donc sa démission du parti.
La réaction dans la partie magazine de l'analyste Evariste Ngarlem-Toldé. Au Comores, les binationaux empêchés d'être candidats à la présidence de la République. En Iran, l'accès à Internet coupé dans la ville d'origine de Mahsa Amini pour la cérémonie marquant la fin du deuil traditionnel de 40 jours. À suivre également dans cette session d'information la Minute Éco, le Sénégal devient membre du Forum des pays exportateurs de gaz et l'export. Les tests de Covid pour entrer au Qatar ne seront plus obligatoires pour les visiteurs à partir du 1er novembre à 20 jours du début de la Coupe du monde de football. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. Des représentants du gouvernement éthiopien et des rebelles de la région du Tigré ont repris ce mercredi leur discussion en Afrique du Sud pour trouver une solution au conflit dans le nord du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ce matin, plusieurs participants, notamment l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo et l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta, ont été aperçus au moment de leur arrivée au ministère sud-africain des Affaires étrangères pour la reprise des pourparlers. Aucune information n'a filtré sur la teneur des discussions et les médias sont tenus à distance. Ces échanges, sous l'égide de l'Union africaine, ont commencé hier mardi à Pretoria, selon la présidence sud-africaine. Ils doivent se poursuivre jusqu'à dimanche. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, avait salué hier ses efforts pour faire taire les armes vers une Éthiopie unie, stable, pacifique et résiliente. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris en août. Les forces éthiopiennes et érythréennes ont récemment annoncé s'être emparées de plusieurs localités, dont Shir, une des principales villes du Tigré. L'ONU s'alarme de ce regain de violence qui bloque l'acheminement de l'aide dans cette région de 6 millions d'habitants. Le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, a exhorté mardi les belligérants à ouvrir une voie vers la paix.
Des crimes contre l'humanité ont été commis par toutes les parties en toute impunité dans le conflit qui ravage le nord de l'Éthiopie depuis bientôt 2 ans, a déploré aujourd'hui Amnesty International, qui n'exclut pas un génocide. Depuis le début en novembre 2020 de la guerre dans la région septentrionale du Tigré, l'ONG a recensé de nombreuses violations des droits humains, y compris des viols, des violences sexuelles, des pillages, des cas de torture et d'exécution extrajudiciaire, a souligné Fisea Tekle, le chercheur spécialiste de l'Éthiopie et de l'Érythrée à Amnesty International lors d'une conférence de presse à Nairobi, au Kenya. Le nouveau premier ministre burkinabé Apollinaire Kylem de Tambela affirme avoir assigné à son gouvernement comme principale priorité la sécurisation du territoire national. Les précisions de Nani Talani.
Le gouvernement, dont la liste a été publiée hier soir, comprend 23 membres, parmi lesquels 3 militaires. Le colonel-major Kassoum Koulibaly détient le portefeuille de la défense, le colonel Boukare Zungrana, celui de l'administration territoriale, tandis que le colonel Augustin Kabore occupe le poste de ministre de l'Environnement. 5 ministres du précédent gouvernement ont été reconduits dans la nouvelle équipe gouvernementale qui comprend 5 femmes. C'est un gouvernement de combat qui a été formé, ce n'est pas un gouvernement de dîner de gala, a déclaré le Premier ministre Kylem ce mercredi à Ouagadougou à l'issue du premier conseil des ministres. Le Burkina Faso continue de faire face depuis 2015 à de multiples attaques imputées à des mouvements djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Lundi, au moins 10 soldats ont été tués et une quinzaine blessés dans une attaque contre Dibo, ville du nord du pays, assiégée depuis 3 ans par les djihadistes.
Le président de transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a assuré aux diplomates américains qu'il n'avait pas l'intention d'inviter les forces russes de Wagner à combattre les djihadistes dans le pays, a déclaré aujourd'hui Victoria Nuland, sous-secrétaire américaine aux affaires politiques. Nous avons eu la chance de nous asseoir avec le président intérimaire Traoré et son équipe, y compris son ministre de la Défense. Il a été sans équivoque en disant que seuls des Burkinabés défendront leur pays. Ils n'ont pas l'intention d'inviter Wagner, a-t-elle déclaré. Lors d'un point de presse par visioconférence à son retour d'une tournée dans les pays du Sahel, les binationaux pourraient être empêchés de se porter candidat aux présidentielles comoriennes de 2024. C'est ce qui ressort d'un projet de loi en cours d'examen au Parlement des Comores. Michel Joseph.
Le texte, qui pourrait être adopté d'ici novembre, stipule notamment que si un candidat est titulaire d'une autre nationalité, il doit renoncer définitivement à sa nationalité étrangère. L'opposition ayant boycotté les législatives de 2020 pour manque de garantie de transparence, le projet de loi a toutes les chances d'être adopté par l'Assemblée acquise au gouvernement du président Azali Assoumani. Ce texte est une punition contre la diaspora comorienne de France. Le colonel Azali Assoumani considère que la diaspora constitue une menace sérieuse pour lui, a déclaré à l'AFP l'opposant Saïd Larifou, avocat franco-comorien de 56 ans, exilé en France. Pour le porte-parole du gouvernement comorien, la disposition controversée obéit à un impératif de sécurité. Il s'agit de sauvegarder la souveraineté et la sécurité du pays et de s'assurer que le président porte un attachement exclusif à la nation comorienne, a déclaré Oumed Nsaïdié. Arrivé au pouvoir par un putsch, le président Azali Assoumani a dirigé les Comores de 1999 à 2006, puis a été réélu en 2016 et en 2019.
Au procès de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, début 2021 dans l'est de la République démocratique du Congo, le premier accusé entendu aujourd'hui à Kinshasa par le tribunal militaire a tout nié en bloc, affirmant que ses aveux consignés sur procès verbal avaient été arrachés sous la torture. Avec quatre autres jeunes hommes, il comparaît depuis le 12 octobre à raison d'une audience par semaine devant le tribunal militaire de Kinshasa, Gombe, siégeant dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, dans la capitale de la RDC. Un sixième prévenu en cavale est jugé par défaut. Tous sont poursuivis pour l'assassinat de Luca Attanasio, de son garde-corps italien, le carabinier Vittorio Iacovacci, et d'un chauffeur congolais du programme alimentaire mondial Mustapha Milambo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, l'accès à Internet a été bloqué ce mercredi pour des raisons de sécurité à Saguez, dans la province iranienne du Kurdistan, d'où était originaire Mahsa Amini, le jour d'une cérémonie marquant la fin du deuil traditionnel de 40 jours. Rosine Monizero.
L'Iran est secoué par des protestations depuis la mort le 6 septembre de cette jeune kurde iranienne, décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays, prévoyant notamment le port du voile en public. Suite aux tensions et aux affrontements dispersés qui se sont produits après la cérémonie, la connexion Internet a été coupée dans la ville de Saguez pour des raisons de sécurité, a indiqué mercredi l'agence de presse ISNA. Près de 10 000 personnes, notamment des habitants de Saguez, mais aussi des villes environnantes, se sont dirigées vers la tombe de Mahsa Amini, selon ISNA. Lors de ces manifestations qualifiées d'émeutes par les autorités, des dizaines de personnes, principalement des manifestants, mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées. Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées. Plus tôt dans la journée, la justice iranienne a annoncé avoir inculpé plus de 300 personnes, portant à plus de 1000 le nombre officiel des inculpations liées aux manifestations dans le pays.
Washington a annoncé ce mercredi des sanctions économiques visant des responsables iraniens et des entreprises pour leur répression violente des manifestations qui s'écouliront depuis la mort de Mahsa Amini le 16 septembre et les perturbations volontaires dans l'accès à Internet. Les entreprises iraniennes ciblées par les sanctions de Washington sont impliquées dans les efforts du gouvernement iranien pour perturber la liberté numérique, souligne le Trésor, le département d'État, évoquant la censure, la surveillance et la cyberactivité et malveillantes contre le peuple iranien. Au moins 13 personnes ont été tuées aujourd'hui à Shiraz, dans le sud de l'Iran, lors d'une attaque contre un lieu de culte chiite mené par des individus armés, a annoncé la télévision d'État. Et selon cette chaîne, 3 terroristes ont attaqué le mausolée de Shahrjag à Shiraz. 2 assaillants ont été arrêtés. Un bilan initial de l'agence de presse de l'autorité judiciaire avait donné 9 morts et 10 blessés. Le nouveau premier ministre britannique Rishi Sunak a décidé aujourd'hui de repousser au 17 novembre la présentation du programme budgétaire destiné à équilibrer les comptes publics. Rishi Sunak s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre des Finances Jeremy Hunt pour discuter de ses propositions de hausse d'impôts. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
Le Sénégal devient membre du Forum des pays exportateurs de gaz avec un statut d'observateur dans un premier temps. Sa candidature a été validée lors de la conférence ministérielle du Forum au Caire. L'organisation compte 11 pays membres à part entière, dont le Nigeria, la Libye, l'Algérie, l'Égypte et la Guinée équatoriale. Avec la Russie, l'Iran, le Qatar et 3 pays d'Amérique latine, ils détiennent 72% des réserves mondiales de gaz naturel. 8 pays ont un statut d'observateur, dont l'Angola, le Mozambique et le Sénégal en 2023. À l'instar de l'université virtuelle du Burkina Faso, l'Institut national supérieur de technologie industrielle au Bénin va proposer des programmes de formation à distance. Les ministres béninoises du numérique et de l'enseignement supérieur ont lancé hier le projet Africa Digital Campus. Ces 2 pays ont été choisis pour la phase pilote du projet, financé par l'Agence française de développement, qui devrait s'étendre en Afrique de l'Ouest.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les tests de Covid ne seront plus nécessaires avant le départ pour le Mondial 2022 au Qatar.
Oui, les tests Covid pour entrer au Qatar ne seront plus obligatoires avant le voyage pour les visiteurs à partir du 1er novembre, à 20 jours du début de la Coupe du monde de football. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé publique, prévue du 20 novembre au 18 décembre. Le Mondial 2022 est le premier événement sportif mondial majeur ouvert au public depuis le début de la pandémie en 2020. Plus d'un million de spectateurs sont attendus dans le petit émirat du Golfe.
De nouveaux qualifiés hier pour les 8e de finale en Ligue des champions en Europe.
Avec des doublés de Lionel Messi et de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a récité son football contre le Maccabi Haïfa, 7-2, se qualifiant pour les 8e. Qualification aussi pour Dortmund. Le Borussia s'est contenté d'un match nul, 0-0 contre Manchester City. L'Algérien Riyad Mahrez de City a raté un pénalty. Les Citizens sont déjà qualifiés et s'assurent donc une place en 8e de finale, ce qui réduit à néant les efforts de Séville, vainqueur de Copenhague 3-0. Tenant du titre et déjà qualifié pour les 8e, le Real Madrid a perdu son premier match de la saison 3-2, surpris par le RB Leipzig. De quoi permettre au club allemand de consolider sa 2e place devant le Shakhtar Donetsk du Burkinabé Franck Lassina Traoré, freiné par le Celtic à Glasgow, 1-0. Chelsea du Sénégalais Kalidou Koulibaly a obtenu sa qualification en battant Salzbourg 2-1. L'AC Milan a gagné à Zagreb 4-0.
Ici en NBA, Golden State tombe à Phoenix.
Les Phoenix Suns, portés par les 34 points de leur star Devin Booker, ont fait tomber le tenant du titre Golden State 134-105. À la Nouvelle-Orléans, Luka Doncic a marqué 37 points, mais cela n'a pas suffi à éviter la défaite de Dallas face aux Pelicans 113-111. Grâce à cette 3e victoire en 4 rencontres, les Pelicans montent à la 2e place de la conférence Ouest, derrière Portland à l'Est. Washington est dans les mêmes temps de passage, 3-1 après son succès à domicile contre les Detroit Pistons, 120-99. Oklahoma City a écrasé les Los Angeles Clippers, 108-94.
La justice russe rejette l'appel de Brittney Griner.
La basketteuse américaine avait demandé que soit réduite sa peine traumatisante, selon elle, sur fond de fortes tensions entre Moscou et Washington. Pour rappel, Brittney Griner a été condamnée en Russie à 9 ans de prison pour trafic de cannabis. Le tribunal a décidé de laisser sans changement le verdict rendu en août dernier contre la star américaine, un seul assouplissement par rapport à la peine initiale. Chaque jour passé en détention avant sa condamnation sera comptabilisé comme un jour et demi et déduit du total de la peine à purger. Rappel, Brittney Griner a été arrêtée à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Elle a reconnu avoir détenu cette substance, affirmant toutefois l'avoir apportée en Russie par inadvertance et l'utiliser légalement aux États-Unis en tant que antidouleur.
Page de sport VOA Afrique signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le premier vice-président du parti d'opposition Les Transformateurs, Mustapha Masri, a annoncé sa démission. Le parti de succès Masra avait appelé à manifester jeudi dernier. La répression de ces manifestations a fait une cinquantaine de morts, selon le gouvernement, environ 70 selon des organisations des droits de l'homme. Pour justifier son départ, Mustapha Masri soutient que les idéaux du parti ont été dévoyés, ajoutant qu'il ne se reconnaît plus dans les objectifs et les moyens d'action des transformateurs. Joanne Jamena au Tchad, le politologue Evariste Ngalem Toldé estime que Mustapha Masri a d'autres raisons inavouées.
Il évoque les déviations, les dérives donc du mouvement, mais la question qui se pose est de savoir quand est-ce qu'a commencé cette dérive, quand est-ce qu'a commencé cette déviation, pour que ce soit aujourd'hui qu'il puisse déclarer donc sa démission du parti. Toujours est-il que appartenir aux transformateurs était donc une source de renommée et d'apparition sur une place publique pour beaucoup de personnes, et tous ceux qui sont partis de ce mouvement ont toujours eu une bonne place à côté du gouvernement. C'est pourquoi peut-être que aujourd'hui il estime normal pour sa part de claquer la porte et puis de chercher autre chose à faire que de rester à côté du président des transformateurs.
Vous pensez que Mustapha Masri a d'autres raisons qu'il n'avoue pas?
Oui, effectivement, il y a certainement des raisons non avouées, parce que qui, plus que lui, encore était plus proche à toutes les rencontres avec l'ancien président. C'était souvent avec lui, et puis en tant que premier vice-président, c'était donc l'un des piliers sur lesquels reposait le mouvement. Donc il faut reconnaître que certainement il a d'autres raisons, il a des raisons inavouées, qu'on le saura tôt ou tard, mais aujourd'hui, appartenir au Parti des Transformateurs ouvre beaucoup de portes à certains ex-militants, et peut-être qu'il a choisi son moment pour partir. Et comme commence aussi la deuxième transition, il estimait, peut-être qu'il n'a pas dit, il estimait que les transformateurs allaient s'engager dans cette dynamique-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et peut-être que ceci expliquerait cela.
Quelle serait l'incidence de cette démission du vice-président des transformateurs, Mustapha Masri, sur le parti?
Le parti sortirait un peu affaibli. Vous savez, il y a quelques semaines, certains militants ont claqué la porte, même si c'est des militants de moindre rang. Donc, premier vice-président d'un parti, ce n'est pas quand même un de moindre membre. Ça va affaiblir le parti et ça va le fragiliser davantage. Surtout que d'un côté, le parti est en train de diaboliser donc le parti des transformateurs, ce qui va décrédibiliser encore davantage le parti des transformateurs. Toujours est-il que ce parti des transformateurs a gagné déjà une renommée. C'est un parti qui est resté comme un modèle, j'allais dire, et qui aujourd'hui, malgré le départ des uns et des autres, peut-être restera encore solide comme le souhaite son président fondateur.
On sait que les transformateurs sont engagés dans une lutte, celle contre la prolongation du mandat du président de la transition. Est-ce que ça va affaiblir le mouvement?
Certainement, ça va affaiblir le mouvement. Vous savez, un temps, on avait pensé que les transformateurs allaient adhérer donc à la deuxième transition et on voyait même le docteur Masra arrivé au poste de la primature. On ne sait pas si c'est le premier vice-président qui a poussé la roue pour que cette proposition puisse être acceptée par le bureau du parti. Toujours est-il que fut un moment où on a senti que les partis allaient collaborer avec le mouvement. Et depuis que cette collaboration est rompue, peut-être que c'est en ce moment-là que Mustapha Masri a pris sa décision. Toujours est-il qu'avec ce qui s'est passé, avec la répression, avec les morts et les blessés qu'on connaît, il a tiré donc les conséquences nécessaires, mais le parti effectivement sort un peu affaibli, ou sinon plus affaibli, d'abord avec la répression, avec la perte de certains membres, et puis aujourd'hui avec la démission de son premier vice-président.
Le politologue Evariste Ngalem Toldé, joint N'Djamena par Yakuba Ouedraogo.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, gagner des marchés dans la sous-traitance reste un vrai casse-tête pour les jeunes entreprises congolaises. Les grosses compagnies minières et autres préfèrent confier ce marché aux étrangers en violation de la loi sur la sous-traitance en vigueur depuis 2018 en RDC. Pour faire face à cette situation, les jeunes entrepreneurs congolais ont décidé de se mettre ensemble pour mutualiser les efforts afin de rafler des marchés avec ces grosses entreprises. Sous-traitance en RDC, défis et initiatives. Un reportage d'Alès Kati Kataï, notre correspondant à Kinshasa.
Anaclé Mutombo est un jeune entrepreneur congolais. Il évolue dans un domaine rare, celui de la protection civile. Malgré qu'il soit bien placé dans ce domaine, il a du mal à gagner des marchés dans la sous-traitance avec les grosses entreprises minières présentes au Congo.
Du côté des entreprises qui demandent le service, il y a encore ce que moi j'appelle le syndrome du colon, qui continue à faire la loi et à régner en maître. Ils font encore et à davantage appel à leurs copains qui sont restés au pays, à qui ils proposent les grosses opportunités. Tandis que ce qu'il y a de minime est réservé aux locaux. Nous avons encore parmi nos compatriotes qui travaillent dans ces boîtes, ceux qui continuent à jouer le rôle de lèche-botte de certaines entreprises parce qu'ils sont utilisés pour à la fois maquiller la vérité et donc servir d'obstacle.
La situation d'Anaclé n'est pas un cas isolé. Depuis la promulgation de la loi sur la sous-traitance réservant celle-ci aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, les débouchés sont rares pour les entrepreneurs congolais. Les étrangers restent bien présents et parfois en complicité avec certains Congolais. À l'Association des sous-traitants congolais, on dénonce une concurrence déloyale de la part de certaines entreprises minières et étrangères. Landry Meya, président de l'Association des sous-traitants congolais.
Et un autre défi que j'aimerais peut-être mentionner également, c'est les défis de prête-nom. Il y a beaucoup de Congolais qui sont utilisés comme prête-nom, juste simplement parce qu'ils sont payés des 5 000 $ pour représenter certaines sociétés comme actionnaires majoritaires dont ils ne le sont pas. C'est aussi ça. Notre but aujourd'hui, c'est de dénoncer toutes ces illégalités d'abord qui existent dans le secteur de la sous-traitance ou le secteur privé. C'est vraiment de faire du vrai lobbying pour se rassurer que les actionnaires ou les entrepreneurs congolais se retrouvent dans cette histoire de la sous-traitance.
Pour relever ces défis, les jeunes entrepreneurs congolais décident de se mettre ensemble afin de mutualiser les efforts. La Fédération nationale des jeunes entrepreneurs congolais vient de signer un protocole d'accord avec l'Association des sous-traitants de la RDC. Eric Makwala, coordonnateur national de la Fédération, explique l'importance de cet accord.
C'est ainsi que nous avions pris cette initiative pour pouvoir signer un protocole d'accord avec l'Association des sous-traitants de la RDC pour nous permettre éventuellement de mutualiser les efforts qui feront en sorte que nous échangeons les expériences, que nous échangeons les opportunités d'affaires, mais que nous nous résoutions aussi en ce qui concerne un certain marché que nous pouvons exécuter ensemble.
En 2018, le gouvernement congolais a décidé de la mise en place d'une autorité de régulation de la sous-traitance. Selon l'idée du gouvernement, ceci devrait favoriser l'éclosion des entreprises congolaises et remettre de l'ordre dans ce secteur dominé jusqu'à présent par les entreprises étrangères. Mais depuis, la RSP peine à faire respecter la loi sur terrain. Malgré ses nombreux défis, dans 2 ans d'existence, la RSP affirme qu'actuellement, 30% des marchés de la sous-traitance reviennent aux entreprises congolaises, alors que ce chiffre était à 13% en 2018. Alex Kati Kataï, Kinshasa, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Cameroun, le contrat liant la Fédération de football et l'équipementier français, le Coq Sportif, courait jusqu'en 2023. La FECAFOOT a cependant résilié le contrat en août dernier, laissant les importateurs et les vendeurs de maillots de l'équipe nationale camerounaise dans le désarroi à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Yacouba Ouédraogo nous en dit plus.
Le visage fermé, Zoubel Wansi accroche à contre-cœur les maillots verts, jaunes et rouges du Cameroun de la marque Coq Sportif dans sa boutique sur l'avenue Charles de Gaulle de Douala. Depuis le changement d'équipementier de l'équipe nationale de football, les tuniques des Lions Indomptables n'ont plus vraiment la coûte.
Pendant un peu la CAN, on a fait des stocks, des réserves assez importantes en prélude à l'événement majeur qui est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand on parle de One All Sport, vous comprenez que ce n'est pas très évident pour nous, surtout par ces temps de récession économique.
Le commerce de Zoubel Wansi est presque entièrement voué aux Lions Indomptables. Sa boutique est remplie de maillots estampillés Coq Sportif, un hic. Cependant, en juillet, la Fédération camerounaise de football a rompu le contrat qui la liait au Coq Sportif jusqu'en 2023. La FECAFOOT a signé un nouveau contrat avec l'équipementier One All Sports.
Mais à moins d'un mois de la Coupe du Monde, les nouvelles tuniques ne sont visibles nulle part et aucun aperçu du nouveau maillot officiel. Mathieu Fangoua est un journaliste sportif.
Dans un premier temps, on va rappeler dans l'imagerie populaire, l'arrivée de OneSport au sein de la Fédération camerounaise de football n'a pas été bien aperçue pour deux choses. La première chose, c'est que c'est une marque moins connue. C'est un équipementier qu'on a souvent connu dans la Formule 1 et les e-games. Ce n'est pas une marque qui a souvent équipé les équipes de football. C'est ça justement qui est créé.
Les fans de foot espèrent tout de même que les maillots de One All Sports seront bientôt disponibles au Cameroun et ne veulent donc pas se procurer des maillots estampillés le coq sportif. Cette situation joue sur des commerces comme celui de Zobel Wansi, qui dit avoir vu passer son chiffre d'affaires quotidien de 100 000 francs CFA à moins de 20 000, lui qui vend présentement des maillots griffés le coq sportif. Mathieu Fangoua, journaliste sportif.
Dans le communiqué officiel du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, en la personne de Blaise Diopnan, il communique en disant ceci. On peut dire avec certitude que malgré le fait que ce contrat soit frappé d'un sceau de confidentialité, la FECAFOOT est en mesure de dire à l'opinion publique que c'est l'un des contrats les plus lucratifs que la Fédération camerounaise de football n'ait jamais signé.
La FECAFOOT a lancé début septembre un appel d'offres à l'attention des entrepreneurs locaux souhaitant commercialiser le maillot des Lions Indomptables. Trois distributeurs officiels seront retenus et de petits commerçants comme Zobel Wansi se verront retirés du circuit de vente des maillots de l'équipe nationale. Mais en attendant, la marque au coq n'est pas restée inactive et a porté plainte devant la justice française pour rupture abusive du contrat.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Des sécheresses plus fréquentes et plus graves en Afrique entravent la production alimentaire, en particulier dans les régions arides du continent où les agriculteurs luttent pour gagner leur vie. Reportage de Jumba Majunga depuis Kibwezi au Kenya, le récit est de Rosine Monezero.
Sous le soleil brûlant du village d'Ulilinzi, dans le sud-est du Kenya, les agriculteurs se livrent à des préparations de terrain uniques. Ils installent dans le sol des membranes en polyéthylène spécialement conçues qui ressemblent à des couvertures transparentes pour empêcher la perte d'humidité et de nutriments du sol. Exacerbé par la sécheresse due au changement climatique, le sol sablonneux de cette région, comme dans la plupart des zones arides et semi-arides, a rendu presque impossible la production de cultures abondantes. Cependant, cette nouvelle technologie de rétention d'eau développée aux États-Unis donne un nouvel espoir aux agriculteurs de cette région. Alvin Smirker, professeur de biophysique des sols à l'Université d'État du Michigan, a développé cette technologie.
Nous avons eu beaucoup de financement gouvernemental, allant dans les millions et les millions de dollars pour mettre tous ces systèmes ensemble. Et puis on a fait des tests au Texas, en Arizona, en Californie et au Michigan. Et il y a les quatre universités qui ont travaillé avec nous. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons simplement mis dans un petit conteneur dans le jardin, mon jardin. Et maintenant nous disons que c'est le meilleur au monde. Il a été testé.
Shem Kouya, chercheur à l'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta, est l'un des scientifiques qui dirige les essais de cette technologie au Kenya.
Nous avons testé la technologie des Niébé. Nous avons également testé la technologie avec le maïs et nous avons réalisé que les fermes où nous avions installé ces membranes étaient plus productives.
La technologie a jusqu'à présent été testée au Zimbabwe et au Kenya et reçoit de bonnes critiques. Florence Mouticia, une agricultrice du village d'Ulilinzi, a déployé la technologie dans sa ferme.
Lorsque la technologie est arrivée, j'ai été formée sur la façon de rendre fertile ma ferme au sol sablonneux. J'ai vu les avantages et je l'ai déployée dans ma ferme. Et je peux dire que cette technologie fonctionne très bien car maintenant, j'obtiens une bonne récolte.
À quelques mètres de là, Anne Mutunga récolte des choux frisés dans sa ferme.
Cette technologie est très bonne. Je peux dire qu'elle est bonne car lorsqu'elle a été utilisée dans ma ferme pour des essais, j'ai récolté beaucoup de maïs. Même maintenant, nous sommes très heureux parce que, comme vous pouvez le voir, nous avons des légumes que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs dans le coin, dit-elle en souriant.
Le centre L'un des principaux inconvénients de cette nouvelle technologie de rétention d'eau est son coût élevé et la main-d'œuvre qu'elle implique. Il faut compter entre 1250 et 2000 dollars américains pour acheter les membranes spécialisées permettant de couvrir un hectare de terrain. Le défi consiste maintenant à rendre cette technologie accessible aux agriculteurs des régions éloignées qui en ont le plus besoin.
Merci pour votre attention. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Jean-Roger Billon, à tout à l'heure.